Othello, africain noir et général commandant en chef des forces vénitiennes, vient d'enlever et d'épouser en secret Desdémone, fille d'un sénateur. Ce dernier l'accuse d'avoir usé de magie ou de sorcellerie pour la séduire. Dans un discours prononcé devant le Sénat, Othello réfute cette accusation et explique comment il a gagné l'amour de la jeune fille en lui relatant ses aventures fabuleuses. Othello, acte 1, scène 3. Très puissant, très grave et très révérend seigneur, mes nobles et bien-aimés maîtres, j'ai enlevé la fille de ce vieillard, c'est vrai, comme il est vrai que je l'ai épousée. Voilà le chef de mon crime, vous le voyez de front, dans toute sa grandeur. Je suis rude dans mon langage et peu doué de l'éloquence apprêtée de la paix, car depuis que ses bras eurent leur force de 7 ans, ils n'ont cessé, excepté ces 9 derniers mois, d'employer dans le camp leur plus précieuse activité. Et je sais peu de choses de ce vaste monde qui n'est rapport aux faits de guerre et de bataille. Aussi embellirai-je peu ma cause en la plaidant moi-même. Pourtant, avec votre gracieuse autorisation, je vous dirai sans façon et sans fard l'histoire entière de mon amour. Et par quel filtre, par quel charme, par quelle conjuration, par quelle puissante magie, car ce sont les moyens dont on m'accuse, j'ai séduit sa fille. Son père m'aimait. Il m'invitait souvent. Il me demandait l'histoire de ma vie, année par année, les batailles, les sièges, les hasards que j'avais traversés. Je parcourus tout, depuis les jours de mon enfance, jusqu'au moment même où il m'avait prié de raconter. Alors je parlais d'accidents désastreux, d'aventures émouvantes sur terre et sur mer, de morts esquivées d'un cheveu sur la brèche périlleuse, de ma capture par l'insolent ennemi, de ma vente comme esclave, et puis de mon rachat. Dans l'histoire de mes voyages, des antres profonds, des déserts arides, d'âpres fondrières, des rocs et des montagnes dont la cime touche le ciel s'offraient à mon récit, je les y plaçais. Je parlais des cannibales qui s'entre-dévorent, des anthropophages et des hommes qui ont la tête au-dessous des épaules. D'écouter ces histoires, Desdémone montrait un profond désir. Quand les affaires de la maison l'appelaient ailleurs, elle les dépêchait toujours au plus vite et revenait, et de son oreille affamée, elle dévorait mes paroles. Ayant remarqué cela, je saisis une heure favorable, et je trouvai moyen d'arracher du fond de son cœur le souhait que je lui fisse la narration entière de mes explorations, qu'elle ne connaissait que par des fragments sans suite. J'y consentis, et souvent je lui dérobais des larmes, quand je parlais de quelque catastrophe qui avait frappé ma jeunesse. Mon histoire terminée, elle me donna pour ma peine un monde de soupirs. Elle jura qu'en vérité cela était étrange, plus qu'étrange, émouvant. Prodigieusement émouvant. Elle eût voulu ne pas l'avoir entendu, mais elle eût voulu aussi que le ciel eût fait pour elle un pareil homme. Elle me remercia et me dit que si j'avais un ami qui l'aimait, je lui apprisse seulement à répéter mon histoire et que cela suffirait à la charmer. Sur cette insinuation, je parlais. Elle m'aimait pour les dangers que j'avais traversés et je l'aimais d'en avoir eu pitié. Telle est la sorcellerie dont j'ai usé. Mais voici madame qui vient, qu'elle-même en dépose.
Othello, Act 1, Scene 3.
Most potent, grave, and reverend signors, my very noble and approved good masters, that I have ta'en away this old man's daughter, it is most true. True, I have married her. The very head and front of my offending hath this extent no more. Rude am I in my speech, and little blessed with the soft phrase of peace. For since these arms of mine had 7 years' pith, till now some 9 moons wasted, they have used their dearest action in the tented field, and little of this great world can I speak more than pertains to feats of broils and battle. And therefore little shall I grace my cause in speaking for myself. Yet by your gracious patience, I will a round, unvarnished tale deliver of my whole course of love, what drugs, what charms, what conjuration, and what mighty magic, for such proceeding am I charged withal, I won his daughter. Her father loved me, oft invited me, still questioned me the story of my life from year to year, the battles, sieges, fortunes that I have passed. I ran it through even from my boyish days to the very moment that he bade me tell it, wherein I spoke of most disastrous chances, of moving accidents by flood and field, of hairbreadth escapes in the imminent deadly breach, of being taken by the insolent foe and sold to slavery, of my redemption thence, and portents in my traveller's history, wherein of Antus vast and deserts idle, rough quarries, rocks and hills whose heads touch heaven, it was my hint to speak. Such was my process, and of the cannibals that each other eat, the anthropophagi and men whose heads do grow beneath their shoulders. These things to hear would Desdemona seriously incline, but still the house affairs would draw her thence, whichever she could with haste dispatch, she'd come again, and with a greedy ear devour up my discourse, which I, observing, took one suppliant hour, and found good means to draw from her a prayer of earnest heart, that I would all my pilgrimage dilate, whereof by parcels she had something heard, but not intentively. I did consent, and often did beguile her of her tears, when I did speak of some distressful stroke that my youth suffered. My story being done, she gave me for my pains a world of sighs. She swore in faith 'twas strange, 'twas passing strange, 'twas pitiful, 'twas wondrous pitiful. She wished she had not heard it, yet she wished that heaven had made her such a man. She thanked me, and bade me, if I had a friend that loved her, I should but teach him how to tell my story, and that would woo her. Upon this hint I spake. She loved me for the dangers I had passed, and I loved her that she did pity them. This only is the witchcraft I have used. Here comes the lady, let her witness it.